Place publique.
Combien de temps encore va vivre le paysage audiovisuel suisse tel qu'on le connaît aujourd'hui? On peut se poser la question avec l'initiative Nobilag. Il n'y a pas que la SSR qui est concernée, nos radios régionales aussi, oui, mais jusqu'à quel point? On va en débattre dans un instant. Retour également sur un des gros dossiers qui a été très suivi dans Place publique cette année, le vote communaliste de Moutier. Quasiment tous les médias romands se sont réjouis du oui des prévotois pour rejoindre le Jura, sauf l'historien Pierre-Yves Moschler, auteur d'un billet à contre-courant dans le temps. Il sera avec nous pour défendre ce contre-pied. Le vélo et le Tour de France, ça ne vous dirait pas de le revoir passer en Suisse? Bah oui, ces jours-ci, on le voit lécher nos frontières, mais sans jamais la franchir. Du coup, on se demande si c'est envisageable de le faire revenir par chez nous. On va en parler et on verra aussi si Chris Froome a déjà tué le Tour cette année. Bienvenue dans Place publique.
Jusqu'à 19h, Place publique. Jérémy Pignard.
Bonsoir, ce sera un des débats chauds de la rentrée, l'initiative Nobilag qui vise à supprimer les redevances radio et télévision. L'idée première, c'est d'instaurer une concurrence entre médias en redistribuant les armes, notamment pour diminuer la puissance de la SSR, dossier qui a déjà fait un petit bout de chemin. Le dernier épisode en date, c'était ce mardi 4 juillet. Une commission du Conseil national préconise le rejet de l'initiative. Attention, il ne s'agit là que d'une commission. Le plénum du Conseil national se prononcera, lui, en septembre. On rappelle aussi qu'en mars dernier, le Conseil des États avait rejeté l'initiative Nobilag. A priori, on ne se dirige pas non plus vers un contre-projet et tout ça suscite pas mal de questions. Pour en parler, Manfred Buller, conseiller national UDC, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Manfred Buller du Jura bernois, favorable à Nobilag, et on reçoit aussi Philippe Zano, le président des radios régionales romandes qui, on le verra, sont aussi très concernés par Nobilag. Bonsoir Philippe Zano.
Bonsoir.
Manfred Buller, je commence avec vous. Après ces deux avis défavorables que je viens de citer, ceux de la commission du Conseil national, ceux également du Conseil des États, est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça veut dire que Nobilag est mal engagé aujourd'hui?
Je ne sais pas si ça montre que l'initiative est mal engagée. Ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique majoritaire au niveau des commissions, les plénums en verra, pour remettre en question ne serait-ce qu'une partie de la redevance et du mandat de la SSR. Et ça, c'est profondément regrettable parce qu'on a vu lors de la votation, il y a relativement peu de temps, lors du nouveau financement, du nouveau modèle de la redevance, qu'il y avait un grand mécontentement dans la population. Cette votation a été acceptée du bout des lèvres à 50,3%, si ma mémoire est juste. Et on a l'impression aujourd'hui que personne ne tient compte de ce mécontentement et qu'on veut simplement mettre toute la poussière sous le tapis et ne surtout rien changer. Et ça, à mon avis, c'est dangereux.
Philippe Zano, en tant que président des radios régionales romandes, vous soufflez un peu, vous, après ces décisions?
Oui, nous soufflons. Dans sa grande sagesse, le Conseil des États a l'unanimité à rejeter l'initiative Nobilag. Et nous savons qu'au Conseil national, ce sera un peu plus difficile. C'est normal et ce que vient de dire M. Buller est juste. Nous souffrons aussi, les petits médias audiovisuels, de la puissance de la SSR. Mais ce n'est pas le débat et ce n'est pas pour moi l'important ce soir. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que toutes les télévisions privées de Suisse sont soutenues par la redevance massivement. Si on enlève la redevance, si on liquide la redevance, Télébilingue disparaît, Canal Alpha disparaît. Il n'y a pas moins de télévision régionale, il n'y a plus de télévision régionale. Pour les radios régionales, c'est un peu différent. Elles sont soutenues entre un quart et un tiers par la redevance dans les régions périphériques. Ça veut dire Jura, Jura-Bernois, Neuchâtel, Fribourg, Valais, Chablais. Sans la redevance, vous enlevez entre un quart et un tiers des radios, du budget des radios, et vous voyez le résultat, c'est une grande catastrophe. En Suisse, il y a 63 chaînes de radio concessionnées, 17 de la SSR, et je suis d'accord avec vous, M. Buller, il y en a quelques-unes en trop, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 25 radios privées, régionales, qui sont subventionnées aussi.
Justement, Manfred Buller, surtout, on a l'impression que le débat est centré sur la SSR, ce que vous appelez le monopole de la SSR, ça c'est une chose, mais Philippe Zano vient de nous le dire, ça affaiblirait aussi les radios, les télés régionales qui, elles aussi, sont privées finalement.
Aucunement. Alors, je crois que dans les débats parlementaires qui ont eu lieu aussi en préparation des commissions, et notamment aussi dans mon parti, nous avons toujours dit cette baisse que nous souhaitons, au moins d'une partie de la redevance, doit se faire dans le budget de la SSR. Et nous sommes prêts à garantir dans ce cadre-là la part actuellement de 6%. Cette part devrait être peut-être définie en termes nominaux, pas en pourcentage, pour les radios et télévisions régionales dont nous apprécions énormément le travail, et en particulier diffusée aussi dans l'arc jurassien. Je crois que c'est essentiel. On a beaucoup de chance. On a par exemple deux télévisions régionales qui couvrent le Jura bernois. C'est comme exceptionnel. Il n'a jamais été question de leur couper le moindre moyen. Donc en ce sens-là, je peux totalement rejoindre l'avis de Philippe Dezano. Nous avons des médias régionaux d'une grande importance qui remplissent un mandat de service public avec une toute petite partie de la redevance. Et il n'est aucunement question de leur enlever des moyens. Il s'agit ici de reparler du mandat de la SSR.
Le problème, c'est que l'initiative liquide la redevance. Elle ne liquide pas la SSR. Et en liquidant la redevance, vous liquidez les télévisions régionales et une partie des radios privées. C'est le problème.
Absolument. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais je ne soutiens pas l'initiative que je trouve trop extrême, bien entendu. Par contre, je suis d'avis qu'il faudrait pouvoir discuter d'un contre-projet qui réduit un petit peu la redevance, qui redéfinit le mandat et le budget de la SFR en le réduisant un petit peu d'une manière supportable, évidemment, tant socialement qu'avec l'organisation de la SFR, avec les emplois et tout ce que ça implique. Mais il ne s'agit pas, pour moi, je ne suis pas du tout un fervent partisan de l'initiative Nobilac, j'aimerais que ce soit clairement dit.
Pourtant, Manfred Müller, on se dirige là vers un débat radical, parce qu'a priori, il n'y a pas de contre-projet. En tout cas, les deux commissions qui se sont exprimées ne vont pas dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on s'apprête à trancher sur du tout ou rien.
Exactement, et c'est ce que je regrette. C'est pour ça que je me suis battu aussi en commission avec mon parti pour qu'il y ait un contre-projet, aussi modéré fut-il, mais qu'on tienne compte de ce mécontentement. C'est pour ça que j'ai dit que la situation d'aujourd'hui, elle est dangereuse. Parce qu'effectivement, on va, sans contre-projet, obliger la population à choisir entre blanc et noir, entre tout et rien. Et je ne peux pas exclure que ce mouvement de mécontentement qu'on a vu lors de la dernière votation aboutisse à une acceptation de l'initiative. Je le regretterais personnellement, mais le peuple est souverain et il est possible que l'initiative soit acceptée. Et c'est ce risque-là que font prendre les tenants du statu quo qui ne veulent absolument pas enlever ne serait-ce qu'un franc ou 1% de redevance.
Philippe Zano, si je dois me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que finalement ce n'est pas le jeu aussi d'ouvrir à la concurrence ?
Alors, la concurrence, la multiplicité des médias en Suisse, c'est essentiel hein, pour le débat démocratique. Nous avons une chance extraordinaire si on compare avec nos voisins. Le grand nombre de médias, qu'ils soient audiovisuels ou la presse va mal, moins 50% de rentrée publicitaire. Les télévisions régionales, c'est 75% du budget par la redevance. Et les radios régionales se portent assez bien dans ce contexte économique, mais il ne faut pas les affaiblir. Et le grand danger, c'est l'affaiblissement. Alors, je suis content d'entendre M. Müller dire qu'il serait pour un contre-projet, mais contre Nobilac, pour nous, c'est essentiel. Il ne faut vraiment pas mélanger les choses, parce qu'il y a d'autres conséquences énormes de l'initiative Nobilac. Par exemple, Nobilac prévoit que la Confédération pourrait diffuser des communiqués payants en cas de crise. Mais s'il n'y a plus de radio, il n'y a personne pour les diffuser. Et puis, la deuxième aberration, c'est que la Confédération interdit la participation financière à des programmes radio en temps de paix. Ça veut dire qu'elle pourrait créer de la radio et de la télévision en temps de guerre. On a connu ça avec la DIPRA, je ne sais pas si des auditeurs s'en souviennent, c'était une unité de l'armée en quelque sorte, mais ça coûte un saladier. Donc toutes ces choses-là sont connexes, je dirais, à l'initiative Nobilag, et c'est malheureux, parce qu'effectivement la SSR fait trop fort. Madame Leuthard l'a dit au Conseil national, au Conseil des États, la SSR devrait faire preuve de modestie. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de signe.
Un dernier mot, Manfred Müller, parce que l'heure tourne, ça va très vite. Est-ce qu'on peut encore espérer voir un contre-projet émerger aujourd'hui ? C'est encore possible ?
Écoutez, nous allons nous battre au plénum. Il y a des propositions de minorité, peut-être des propositions individuelles qui viendront au mois de septembre au Conseil national. J'espère que nous pourrons garder le pied dans la porte et puis montrer justement ce risque que s'il n'y a pas de contre-projet, tout à coup, par malheur, une petite majorité pourrait accepter cette initiative. Et là, nous aurions un réel problème, effectivement.
Ce que vous nous dites, c'est si c'est tout ou rien, vous ne soutiendrez pas Nobilac.
Écoutez, j'ai de la peine à imaginer de soutenir cette initiative, mais c'est vrai que je serais aussi, comme certains, mécontent parce que la SSR, avec un brin d'arrogance, parfois, il faut le dire, campe sur ses positions et s'estime un peu toute puissante, au détriment aussi, par exemple, des privés, mais des radios régionales également, parfois, et des télévisions.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs Philippe Zano et Manfred Müller, d'avoir été avec nous pour ce débat sur Nobilac. La prochaine séance, ce sera le Conseil national en septembre. Et puis après, éventuellement, on ne sait pas encore quand, le vote du peuple, ça sera encore une autre paire de manches. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans Place Publique. Dans un instant, on va revenir sur le vote communaliste de Moutier avec l'historien Pierre-Yves Moechsler. Mais pour l'heure, 18h30, on fait le tour de l'info avec Sonia Bernauer. Bonsoir Sonia. On revient sur un des grands thèmes qui a animé la région cette année, c'est le vote communaliste de Moutier le 18 juin dernier. Déjà beaucoup d'encre a coulé sur ce oui des Prévotois pour rejoindre le canton du Jura. Un oui souvent synonyme de victoire pour les médias et personnalités de Suisse romande. Mais on a pu lire aussi le contre-pied de cette tendance majoritaire. C'était d'ailleurs il y a peu de temps dans Le Temps, le 27 juin dernier, un billet d'opinion intitulé « Moutier, malheur au vaincu ?» Et c'était l'œuvre de l'historien Pierre-Yves Moechler qui est justement avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors évidemment, je ne peux pas relire tout le billet que vous avez écrit, mais j'aimerais quand même reprendre quelques points principaux avec vous. Un des aspects qui ressort de votre analyse, c'est la question confessionnelle qui aurait été déterminante dans le vote du 18 juin de Moutier. Si je résume, c'est la victoire des catholiques autonomistes contre les protestants antiséparatistes.
Écoutez, quand on parle de questions identitaires, on parle de mentalité, on s'adresse à l'histoire des mentalités et on constate qu'en matière de mentalité, l'évolution est extrêmement lente. On ne change pas de mentalité du jour au lendemain, ni même d'une génération à l'autre. Et donc on constate que des éléments qui se sont placés il y a des siècles, ou en tout cas plusieurs générations, continuent d'avoir une influence sur les choix des populations. Cela n'empêche pas les individus de faire des choix différents, bien entendu, et la liberté individuelle existe, mais d'une façon générale, on constate que la population, d'une façon générale, suit des réflexes politiques qui ne changent pas beaucoup.
Alors justement, l'un des arguments que vous apportez, c'est qu'avec le développement industriel, Moutier a vu sa sensibilité catholique augmenter. Les statistiques dernièrement, elles font état de 2347 catholiques, 1608 protestants, et puis autres hors religion reconnues, 1556. Vous parlez d'influence. C'est juste une influence ou c'est déterminant? Parce que dans le billet que vous écrivez, on a le sentiment que la question confessionnelle a décidé du sort de Moutier.
Mais c'est absolument déterminant. Si on examine la frontière du canton du Jura qui a été déterminée dans les années 70, on constate qu'elle suit exactement les limites de l'extension de la réforme du XVIe siècle au village près. Et donc, effectivement, on constate que les catholiques dans les régions du nord du Jura ont, d'une façon générale et par justement héritage de génération en génération, une image négative de Berne dont on cherche à s'affranchir, alors que chez les réformés, au contraire, on a l'impression que Berne a toujours été un protecteur et que le danger vient plutôt du côté de l'évêque ou du côté des catholiques. Et donc, il y a là une fracture entre les jurassiens, fracture qu'on a essayé de combler pendant 150 ans de cohabitation commune dans le canton de Berne, mais qui réapparaît au moment des choix identitaires fondamentaux sur l'appartenance cantonale. Donc effectivement, c'est un élément tout à fait déterminant.
Mais Pierre-Yves Moechler, que dire alors du Lophonais, par exemple, catholique, qui avait refusé la création du Jura le 23 juin 1974 ?
Oui, je dis que c'est déterminant, mais c'est pas l'élément uniquement déterminant, puisque effectivement, les Lophonais se sentaient à l'aise dans cette situation un peu particulière qui les rattachait au canton de Berne, alors qu'ils appartiennent clairement à la région bâloise. Au moment de la création du canton du Jura, ils ont révisé leur jugement et à quelques voix près, c'était aussi très très proche comme résultat, très serré, ils ont décidé de se rattacher au canton de Bâle-Campagne.
On a aussi eu un des pères fondateurs du Jura, Roland Béglin, qui était lui protestant.
Non, mais c'est absolument évident que les individus choisissent en fonction de leurs propres réflexions. Mais par contre, les gens qui choisissent sans déterminisme historique sont relativement minoritaires. On a aussi vu, par exemple, dans le mouvement séparatiste, beaucoup de gens qui appartenaient à la gauche et qui imaginaient qu'en créant un canton, ils allaient trouver de nouvelles formes sociales, d'organisation politique, etc., qu'ils auraient un canton en quelque sorte progressiste. Et là, il y a une part importante de personnes qui ont eu un idéal qu'ils ont cru pouvoir réaliser en se séparant du canton de Berne. Et aujourd'hui aussi, il y a cette idée qu'en rattachant Moutier au canton du Jura, on fait un acte ou un geste politique progressiste. Donc, encore une fois, la question confessionnelle n'est pas la seule déterminante, mais quand on voit la masse des personnes qui sont de confession catholique à Moutier aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques décennies, eh bien, on a là une base très, très nettement favorable à la séparation du canton de Berne et au rattachement au canton du Jura.
Si je suis votre analyse, est-ce que ça veut dire que finalement la campagne du gouvernement jurassien pour attirer Moutier n'a pas joué un rôle si important que ça, puisque c'est la question identitaire qui aurait joué un rôle majeur ?
C'est totalement identitaire. Après, vous savez, quand la décision se prend à quelques dizaines de voix de différence, comme ça a été le cas, chaque petite action peut avoir eu son rôle. On savait au départ que ça se jouerait à 48 ou 52% dans un sens ou dans un autre, et qu'il s'agissait de convaincre une toute petite partie de l'opinion. Et ça valait pour les deux camps, le gouvernement jurassien a été très actif dans cette affaire, alors que les autorités bernoises sont plutôt restées en retrait, mais aussi le camp autonomiste a été très dynamique dans la campagne à Moutier même.
Autre point majeur de votre prise de position, Pierre-Yves Meuchler, sur laquelle il me paraît important de revenir, c'est la crainte de l'isolement, de l'affaiblissement finalement de la minorité francophone du canton de Berne, à savoir le Jura bernois, Bienne. Vous dites notamment la communauté romande la plus faible se retrouve seule. Selon vous, c'est un affaiblissement très fort dans le cadre de la bataille pour le bilinguisme, si on peut appeler ça comme ça ?
Tout est relatif, mais je constatais en écrivant dans un journal roman que pratiquement l'ensemble de la presse romande a applaudi le départ de Moutier comme si c'était une victoire pour les francophones, alors que ça ne peut pas être une victoire pour les francophones puisqu'il y a un gagnant et il y a un perdant. Et le perdant, c'est la minorité francophone du canton de Berne. Je pense qu'elle va survivre à ça, mais néanmoins, c'est un affaiblissement et une difficulté supplémentaire.
Vous dites aussi, c'est peut-être dans ce qui reste du Jura bernois et à Bienne que se jouera l'avenir de la cohésion nationale. Pierre-Yves Meuchler, est-ce que c'est pas aller un petit peu loin que de se risquer à aller jusque-là ?
Ben, il faut parfois forcer le trait pour faire comprendre que effectivement la situation des francophones du canton de Berne est une situation délicate et que ceux qui peuvent s'appuyer sur des institutions cantonales par leur propre volonté, d'ailleurs, sont dans une, sont à l'abri. C'est maintenant au Jura bernois de se battre et de s'affirmer davantage que ce qu'il a fait par le passé pour effectivement avoir une reconnaissance et une survie à long terme.
Mais il y a aussi d'autres minorités en Suisse. Il y a les Romans chaud-grisons, il y a les Alémaniques du canton de Fribourg, les Alémaniques du Valais. Est-ce que jouer la cohésion nationale sur ce petit bout de territoire, c'est pas un peu gros ?
Vous savez, à chaque fois que, par exemple, sur le plan du français, un canton alémanique fait mine d'affaiblir l'enseignement du français à l'école obligatoire, vous avez toute la presse romande qui proteste, les politiciens romands qui s'y mettent, etc. On est extrêmement sensible en Romandie et en fait, c'est cette question des rapports entre la Suisse française ou romande et la Suisse alémanique qui est sensible. Dans ces rapports-là, Est-Ouest, on va dire, ben effectivement, la situation de la minorité romande du canton de Berne va être déterminante.
Et qu'est-ce que vous craignez finalement à l'avenir pour le bilinguisme dans le Jura bernois et à Bienne ? C'est qu'il disparaisse presque ?
Non, je crois que c'est un scénario catastrophe que personne n'évoque, en fait. Le principal problème, je le ressens dans le fait que la masse critique est trop faible pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui sortent du lot et qui s'affirment effectivement dans un canton alémanique aussi nombreux que celui-ci. Il faut être très, très, avoir le dos solide pour se lancer dans une carrière politique à Berne, etc. Et c'est un effort considérable qu'il faut renforcer, qu'il faut véritablement mettre en évidence dans les années qui viennent dans le Jura bernois et à Bienne.
Du coup, j'ose vous poser la question, Pierre-Yves Meuchler, un petit peu provocante, je le reconnais, mais finalement, est-ce que c'est l'historien ou c'est le biennois francophone qui parle dans ce billet que vous avez écrit pour Le Temps ?
Je crois que c'est l'historien qui porte un regard sur ce qui s'est passé, mais évidemment, il y a aussi le regard du citoyen. Vous savez, je crois qu'il est temps chez nous de cesser de faire la différence entre francophones de Bienne, francophones du Jura bernois, etc. Nous avons tous une situation commune que nous devons partager et face à laquelle nous devons pouvoir agir. De vouloir diviser encore cette minorité en sous-catégories, ça n'a pas de sens.
Un des points aussi que vous abordez, qui est intéressant, c'est vous dites finalement Moutier a fonctionné un peu comme un exutoire des frustrations minoritaires de la Suisse romande, c'est-à-dire que cette frustration vis-à-vis de la Suisse alémanique, la victoire criée par les différents médias romands était l'expression de cette frustration.
Oui, parce que si on regarde la carte et qu'on ne connaît pas la situation, la décision de Moutier est totalement incompréhensible. La nouvelle carte du Jura est absurde. Une ville qui n'a pratiquement que quelques centaines de mètres de frontières communes avec son futur canton, ça n'a pas grand sens. Et je prends l'exemple des frontières de la Broye, dont on voit bien qu'elles sont absurdes, mais on les a héritées du Moyen-Âge, et c'est au XXIe siècle qu'on redessine les mêmes frontières pour des raisons identitaires plutôt que pour des raisons fondamentales. La nouvelle frontière n'est pas fonctionnelle. Et donc, je plaide pour qu'effectivement, elle disparaisse en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle devienne aussi perméable que possible et que les collaborations des deux côtés de cette frontière, entre les deux Juras, soient aussi intenses que possible.
Alors justement, comment on fait maintenant? Parce que vous parlez désormais de frontière cantonale absurde, mais une frontière ou une limite cantonale, ben, par définition, c'est pas forcément une barrière à toute collaboration et toute entente. Comment envisager un avenir radieux maintenant?
Ben, il faut que les ressentiments soient dépassés et que l'ère du combat séparatiste soit maintenant dépassée pour que effectivement on puisse en toute loyauté et respect mutuel se parler par-dessus cette frontière pour établir des collaborations concrètes dans tous les domaines, à commencer par celui des hôpitaux, mais aussi ceux de la culture par exemple, et voire du système scolaire, puisqu'on voit bien que du point de vue scolaire, il y a des décisions à prendre pour que la perméabilité de cette future frontière puisse effectivement s'établir.
Donc ça veut dire que le Jura doit encore se soucier du Jura bernois aussi?
Ah mais c'est évident, puisque effectivement, il a créé une situation qui l'oblige au partenariat, vu qu'il a en quelque sorte hérité d'une commune centre de sa couronne qui est maintenant en quelque sorte privée de sa ville-centre dont elle avait terriblement besoin pour sa dynamisation et sa vie quotidienne.
Et c'est le Jura qui a créé cette situation ou le canton de Berne? Comment il faut voir la chose?
Ben écoutez, on ne va pas se jeter la pierre. En tout cas, le canton du Jura a véritablement souhaité cette situation et donc effectivement, il porte maintenant une responsabilité pour que le dialogue s'établisse.
Merci beaucoup Pierre-Yves Meuchler d'avoir accepté de partager votre point de vue avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci d'être venu dans Place Publique.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Place Publique.
Et on va boucler Place Publique ce soir avec le Tour de France. C'est l'événement sportif du moment. Allez, je vous le concède avec Wimbledon pour les fans de tennis. La grande boucle qui passe ces jours-ci tout près de la Suisse. Le peloton était à la planche des Belles-Filles il y a quelques jours. Demain, il arrivera au Rousse dans le Jura français. Comment le faire revenir chez nous? C'est la question qu'on va se poser. Et puis, on parlera aussi un petit peu sportif. Est-ce que Chris Froome, le maillot jaune, a déjà tué le match cette année? Et quand on parle vélo, on accueille évidemment Christophe Moreau. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Ancien cycliste qui connaît bien le Tour de France, évidemment, qui a œuvré aussi pour faire venir le Tour de France à Porrentruy en 2012. Et avec lui, Yann Engel, le directeur de l'Office du tourisme de Neuchâtel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Acteur aussi dans la venue du Tour à Neuchâtel, c'était en 1998, ça ne nous rajeunit pas, déjà presque 20 ans. Christophe Moreau, 2012, on s'en souvient, le Tour passé à Porrentruy. On peut rêver de le revoir un jour dans le secteur ou alors ce sont des dossiers qui sont extrêmement longs, extrêmement compliqués à monter?
Oui, je crois que les deux paramètres sont importants. Ce sont des dossiers longs et lourds à porter, tant dans l'organisation, dans l'administration, que dans la ferveur locale, puis de pouvoir trouver aussi les budgets nécessaires à accueillir le Tour de France, et d'autre part aussi un engouement populaire qui fait que la réussite est quasi à la réception pour en profiter. Mais il est clair que derrière, il n'y a pas seulement des Francs Suisses et des pouvoirs politiques et un canton. Il y a aussi beaucoup de monopolisation au niveau des fonds, au niveau de partenaires plus privés en grande quantité que cantonaux. Et c'est vrai que derrière, il faut avoir aussi, toute une énergie presque, j'ai envie de dire, industrielle pour pouvoir, comme on l'a fait en 2012, bien mener l'opération. Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, on a dépassé à l'époque, je crois, sauf erreur, allègrement le million et demi.
Oui, c'est ça. Jean-Claude Salomon, le président du comité d'organisation de l'étape à Porrentruy, nous parlait il y a quelques jours de 1,5 million de francs à réunir. Yann Engel, vous aviez participé activement à la venue du Tour à Neuchâtel en 98. Les temps ont changé depuis, c'est devenu plus difficile, c'est devenu un autre monde, ou alors c'est encore comparable?
Je peux pas répondre précisément, mais c'était déjà assez compliqué, comme dit Christophe Moreau à l'époque. Il fallait le pouvoir public, il fallait aussi un engouement populaire. Et nous, à Neuchâtel, on a eu une chance incroyable. On s'est approché du Tour de France en 1996 en étant très gourmand, puisque non seulement on voulait déjà que le Tour de France porte les frontières de l'Hexagone, mais en plus on voulait qu'il vienne en 1998 chez nous. Pourquoi 1998? Parce qu'on célébrait le 150e anniversaire de la République. Donc il a fallu vraiment mobiliser les forces. Et puis c'est aussi le réseau. Moi, j'avais la chance de connaître Jean-Marie Leblanc par mon précédent travail. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça a aidé. J'ai aussi la chance d'être accompagné lorsqu'on est monté à Paris voir Jean-Marie Leblanc, qui était le directeur à l'époque, accompagné de deux conseillers d'État. Et c'est clair que ça a aidé aussi.
Yann Engel nous parle de réseau. Christophe, vous avez été évidemment ancien cycliste français de renom. Ça compte, ça? Il faut ce carnet d'adresses aussi pour pouvoir attirer un tel événement?
Il est vrai, il faut bien le reconnaître, que j'ai eu la chance de pouvoir œuvrer la candidature de Porrentruy et du canton du Jura, dans le sens où j'étais encore actif, très actif dans le Tour de France et dans le milieu professionnel international. Et c'est vrai que de faire du lobbying auprès d'ASO, d'un Maurice pour organisation, auprès de, c'était pas Jean-Marie Leblanc maintenant, bien sûr, mais Christian Prudhomme, de pouvoir faire valoir un peu notre petit coin de pays lorsqu'on est coureur et puis qu'on est jurassien d'adoption. Et eh ben c'est vrai que je pense que ça a aidé, mais c'est vrai que ça a été une partie du travail, mais la grosse partie, on vient de le citer, c'est aussi de réunir une équipe motivée, politique, sur le terrain, et puis des fonds et des partenaires et des privés qui nous ont suivis. Donc c'est un tout, et c'est vrai que cette équipe, oui, on pourrait le faire, oui, on pourrait y repenser, mais il faut encore relativiser, parce que c'est vrai que c'était un énorme travail. On a eu d'énormes résultats et une belle fête ce jour-là, mais néanmoins, ça reste le Tour de France avec tout ce que ça englobe dans son gigantisme.
Yann Engel, vous voyez ça aussi sous l'angle et sous l'impact touristique, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, finalement, de faire venir le Tour de France dans sa région, dans sa ville, quand on voit tous les efforts que ça demande?
Bon, déjà, c'est un événement sportif qui est hors du commun. Donc, d'un point de vue sportif, c'est extraordinaire. C'est déjà une chance pour une région de pouvoir accueillir un pareil événement. Et puis ensuite, c'est aussi le côté festif. On voit, c'est des gens qui sont heureux, qui sont au bord du Tour de France. Et à l'heure actuelle, c'est aussi bon de donner du bonheur aux gens. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont extrêmement importants qu'il faut garder en tête. Après, le côté touristique, c'est vrai que au niveau touristique, c'est très positif sur le moment. Parce que vous recevez beaucoup de journalistes, c'est important. Les hôtels sont pleins. Donc là, dans le court terme, c'est très bien. Par contre, si vous voulez ancrer dans la tête des gens qu'une étape arrive à Porrentruy, le mot Porrentruy ou le mot Neuchâtel dans les supporters du vélo, il faut pouvoir idéalement s'impliquer sur plusieurs années. Et là, l'exemple de l'Alpe d'Huez est criant, puisque l'Alpe d'Huez a décidé en 1974 déjà, c'est très vieux, hein, mais avait déjà décidé à l'époque qu'on est candidat pour obtenir une arrivée à l'Alpe d'Huez, mais on veut être sur 3 ans. Et après, ils ont eu la chance, c'est vrai, d'avoir des Hollandais qui se sont imposés directement avec Zoutemelk en 76, Henny Kuiper en 77 et puis en 78. Et c'est devenu un mythe au niveau de la Hollande. Donc, il faut idéalement de l'engagement sur une certaine période, et puis après il faut aussi toujours un petit peu de chance dans le marketing, c'est clair.
On voit aussi, l'exemple c'est celui de la planche des Belles-Filles, hein, qui là avait un contrat de 3 passages sur 5 ans. Christophe Moreau, vous êtes d'accord avec ça, ou pour vous même un one shot finalement ça vaut quand même le coup?
Écoutez, je partage bien sûr les propos de M. Engel, mais néanmoins on arrive sur le Tour de France à arriver au sommet d'un col inconnu qui finit en cul-de-sac, qui s'appelle la planche des Belles-Filles, qui est pour moi, je suis aussi franco-suisse et évidemment du territoire de Belfort, pas loin de la Haute-Saône, je connais très bien. Je ne pensais pas qu'un jour, quand j'ai commencé le vélo à 16 ans, que le Tour de France arriverait à la planche des Belles-Filles. Et c'est ça aussi la magie du Tour, c'est qu'on arrive et on peut imaginer que le Tour puisse arriver n'importe où en France. Sauf que à un moment donné, la différence entre la France et les instances cantonales suisses, notamment, qu'elles soient romandes ou alémaniques,
sont les fonds qui sont disponibles au niveau du, de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, du communauté de communes, qui font qu'on arrive malgré tout sur des projets assez fous comme la planche des belles filles à réunir des fonds pour accueillir le tour. Et d'ailleurs, ils ont signé pour 3 années. C'est la fête, ça reste c'est l'Alpe d'Huez, mais on arrive à quelque chose qui reste sympa. Et puis de redécouvrir un petit coin de département, la Haute-Patate, la Haute-Saône, je crois que c'est aussi des beaux exemples. Et c'est cette magie-là qu'on peut retranscrire. Et je crois que Neuchâtel a bien plus de qualité que cette planche des belles filles, ou pour entrer, bien évidemment, entre le Chaffral et le lac.
Messieurs, je voudrais juste qu'on garde 3 petites minutes pour qu'on puisse parler du sportif, parce que ça fait même pas une semaine que le tour est parti. Et puis le favori, Chris Froome, est déjà en jaune depuis la planche des belles filles, justement. L'an dernier, il n'y avait quasiment pas eu de suspense sur le Tour de France. Christophe Moreau, est-ce que Froome a déjà tué le match ?
Écoutez, je pense qu'il est bien évident que la Sky arrive prête. On l'a vu sur le contre-la-montre dès le premier jour. On a placé 4 coureurs dans les 10 premiers. On l'a vu répondre présent derrière Haro, là au sommet de la planche des Belles-Filles. Ils sont forts. Froome n'a pas tué le Tour. Les grosses étapes arrivent dès demain dans les Rousses et surtout dimanche aussi du côté de Chambéry avec le Grand Colombier, le col du Chat et puis le col de la Biche. Il restera les Pyrénées, les Alpes. Non, la course n'est pas terminée, loin de là. Mais néanmoins, on pense et on peut imaginer que les Sky ont envie d'aller galaner un 4e succès avec Christopher Froome. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu encore à l'avant, ils sont présents, il y a un gros collectif. Mais la course, elle sera réglée définitivement à Paris. Et là, il reste encore 2 semaines, 2 grosses semaines.
Yann Engel, je sais aussi que vous regardez ça d'un œil intéressé parce que vous aimez et puis que vous connaissez un peu le vélo. Les Alpes et la haute montagne, ça peut encore amener sur l'autre suspense, ou alors vous craignez qu'il n'y en ait plus beaucoup de suspense déjà ?
Non, c'est vrai que la Sky est très très forte, très bien organisée, mais c'est la beauté du vélo. Hein, vous n'êtes jamais à l'abri d'une chute. Souvenez-vous l'année passée de Mont Ventoux, ce qui est arrivé à Christopher Froome, il y a une chute, etc. On n'est jamais à l'abri d'un pépin. Il ne faut pas y souhaiter ça, bien évidemment, mais la route est encore longue jusqu'à Paris. Vous avez aussi des jours sans qui peuvent arriver. Donc, ça reste ouvert. Je dirais que Christopher Froome aujourd'hui a un pied sur le podium, et puis les autres équipes font tout pour qu'il puisse pas mettre la deuxième.
Mais qui pourrait être en mesure de l'inquiéter alors, Christophe? C'est Cocorico, peut-être un Romain Bardet?
Écoutez, Romain Bardet a prouvé sur la planche des belles filles qu'il était présent. On a eu la surprise italienne du champion d'Italie Fabio Aru qui a déstabilisé plus que ça en contenant d'une 15 secondes, même presque 20 secondes, Froome et son équipe. Peut-être que c'est la surprise, peut-être que c'est lui qui va peut-être faire exploser un peu ce collectif assez extraordinaire britannique. Et puis, voilà.
Après, on a eu les déceptions Quintana et Contador aussi, dès la première montée.
Mais vous savez aussi, Quintana a fait le Giro, on le voit avec Thibaut Pinot qui
c'est dur,
d'enchaîner. Est aussi local. C'est très compliqué aujourd'hui d'enchaîner 2 grands tours de 3 semaines. C'est bien évident, tant que dans la fraîcheur psychologique que physique, c'est trop épuisant. Néanmoins, on peut compter sur des gens qui ont préparé le tour. Et c'est vrai qu'un Bardet, qu'un Haro, ça peut être un petit peu la surprise. Ou Jakob Fuglsang, qui peuvent un petit peu aller chatouiller la Sky. Mais comme l'a dit M. Engel, la course est loin d'être terminée. Et il y a encore beaucoup à faire sur le tour.
Yann Engel, pour vous, ce sera qui les troubles faites?
C'est un peu les mêmes personnes citées par Christophe Moreau. Il n'y a plus beaucoup de surprises à ce niveau-là. L'arrivée à la planche des Belles-Filles a déjà été révélateur. Moi, je garderai quand même en réserve Quintana, parce que c'est la première bosse, elle est très courte. On ne peut pas comparer vraiment une catégorie. Donc on peut avoir un Quintana de refait dans le tour. C'est vrai que lui, il a déjà fait le Giro, donc c'est pas le cas de Christopher Froome, qui est vraiment son objectif numéro 1, c'est le Tour de France.
Eh bien, on prend les paris et puis on en reparle dans 2 semaines pour voir qui avait raison. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Bon tour et bonnes vacances.
Merci, au revoir.
Merci, c'est la fin de Place Publique. Et d'ailleurs, c'était la dernière de la saison aussi. Mais tout est à retrouver sur notre site internet et sur les applis smartphone RTN, RFJ, RJB. La rentrée de Place Publique, notez bien, ce sera le 16 août prochain. Notez bien, c'est un mercredi. Place Publique change 2 jours à partir de la rentrée. Ce ne sera plus le vendredi, mais on garde les mêmes horaires, 18h20, 19h. Le vendredi soir, maintenant, il y aura une nouvelle émission 100% sport. Merci aussi à Jean-Michel Probst qui était à la technique ce soir. Et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce MAC d'actualité cette année. Merci à vous aussi qui nous écoutez pour votre fidélité. Dans quelques minutes, 19h, les infos qui arrivent, ce sera avec François Comte. Très bonne soirée, bonnes vacances et à la rentrée.
Place Publique.